Merci beaucoup Alain. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Gilson ou Blumenberg, ce sera peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions. En tout cas, nous sommes très heureux, Christophe Grélard, vous ne m'entendez pas bien ?
Entrez.
Donc disais-je, nous sommes très heureux et honorés, Christophe Grélard et moi-même, d'ouvrir cette rencontre consacrée à Hans Blumenberg. Et plus spécialement, puisque ça n'apparaît pas dans le titre, à son livre « La légitimité des temps modernes ». Donc rencontre dont l'organisation était rendue possible grâce à l'accueil chaleureux d'Alain Delibera dans le cadre des activités du GAM, le groupe Actualité médiévale, auquel nous avons grand plaisir d'appartenir, Christophe et moi. Et nous tenons donc à remercier en premier lieu Alain Delibera, mais aussi Angela Béatrice Avalos ainsi que Sophie Grandcyr pour leur aide dans l'organisation de la journée. Alors, à l'origine de cette demi-journée sur Hans Blumenberg, un constat simple, mais surprenant, que je vous livre. La légitimité des temps modernes, le livre que j'ai évoqué de Blumenberg, a connu un certain succès en France, après sa traduction en 1999 chez Gallimard, plus de 30 ans après sa parution en allemand, comme en témoignent les recensions et articles qui lui ont été consacrés après sa parution. Qu'il me suffit ici de mentionner le livre très important de Jean-Claude Monod, qui va nous rejoindre, « La querelle de la sécularisation » de Hegel à Blumenberg. Mais dans le même temps, force est de le constater, le livre de Blumenberg n'a pas suscité le débat qu'il aurait mérité dans le petit cercle des médiévistes français, ou seulement peut-être entre les murs feutrés de quelques séminaires, ici même au quartier latin, mais pas de débat important et public. Aucun médiéviste ne participe pas au numéro de cahier philosophique de 2010 consacré à Blumenberg, ni à celui de la revue de métaphysique et de morale de 2012 consacré à Blumenberg et l'origine de la modernité. Et à ma connaissance, seul Rémi Brague a consacré un article à Blumenberg dès 1995, ainsi qu'un chapitre de son livre « Le propre de l'homme », mais à part ses contributions, assez peu de contributions de nos collègues médiévistes français. Alors serions-nous, et je m'inclus évidemment dans ce « nous », passer à côté de cet événement Blumenberg? Et si oui, pour quelles raisons? Alors on dira peut-être qu'une grande partie de ce livre, pour ceux qui le connaissent, extrêmement dense, foisonnant, s'inscrit dans un débat sur la sécularisation beaucoup plus intense à l'époque en Allemagne qu'en France, ce qui est en partie dû à une longue tradition allemande, hegelienne d'abord, nietzschéenne ensuite, et qui alimenta d'innombrables essais allemands sur un éventail très très large qui va de Max Weber à Carl Schmitt, et j'en passe. Et je vous renvoie au livre de Jean-Claude Monod que j'ai déjà mentionné, qui retrace toute l'histoire de cette querelle très allemande. En France, nous n'avions guère que Marcel Gauchet, qui avait écrit avec un titre qui rappelait Max Weber sur le désenchantement du monde, mais le débat n'était pas exactement le même que celui qui agitait l'Allemagne. On dira aussi que le livre de Blumenberg s'arrête au fond assez peu sur les philosophes médiévaux eux-mêmes, beaucoup moins en tout cas que sur des penseurs de l'Antiquité ou de la Renaissance. Je pense en particulier aux analyses que Blumenberg consacre à Épicure, à la patristique, puis au long chapitre consacré à Nicolas de Cuse ou Giordano Bruno. Bref, ce livre concernerait seulement de manière un peu marginale les médiévistes, et qui plus est peut-être les médiévistes français. Mais il y a peut-être une autre raison, plus forte, celle-ci, à ce manque d'intérêt pour la légitimité des temps modernes, c'est que ce que dit Blumenberg de la philosophie médiévale en 1966, quand le livre a été écrit, est devenu un peu daté, peut-être même extrêmement daté, en 1999, lors de sa parution en français. Sa lecture de Guillaume d'Occam peut être jugée dépassée en 1999. De même, plus personne à l'époque ne considère Nicolas d'Autrécourt comme un nominaliste, grâce aux travaux de Zénon Calouza, par exemple. De même encore, les débats médiévaux sur l'idée d'un dieu trompeur avaient été considérablement renouvelés et ne correspondaient plus à l'image que s'en faisait Blumenberg à l'époque où il rédigeait ce livre. Autrement dit, il semblerait que le livre soit arrivé un peu tard en France, ce qui expliquerait peut-être le manque d'intérêt. Certes, cela dit, le récit, à mon avis, que propose Blumenberg, dans sa globalité plus que dans ses détails, aurait dû malgré tout alimenter nos débats sur la place du Moyen-Âge dans l'histoire de la philosophie, en général, et de la place du Moyen-Âge par rapport à la modernité philosophique en particulier. Car comme vous le savez, c'est une des thèses fortes de Blumenberg, il défend l'idée qu'il existe un geste proprement moderne, légitime, d'où le titre du livre, un geste qu'il appelle d'affirmation de soi, de l'homme, de la raison, ça varie selon les passages du livre, moderne donc. Mais ce geste dépend, négativement du moins, du Moyen-Âge, dans la mesure où la crise philosophique que traverse la fin du Moyen-Âge, et en particulier sous l'impulsion des nominalistes à partir du XIVe siècle, c'est son analyse, aurait joué un rôle fondamental dans l'avènement de la modernité. Ça aurait eu une crise qui aurait suscité le geste moderne.
Alors, quand il aborde la question de la légitimité des temps modernes, Blumenberg prend soin de se distinguer de l'opposition frontale entre deux thèses, l'une qui se lamente sur le déclin de la du Moyen-Âge, donc modernité qui aurait en quelque sorte bradé l'héritage médiéval, et l'autre qui, à l'inverse, glorifie le triomphe des Lumières. Et comme le dit Blumenberg, l'indétermination de ces thèses leur confère davantage une fonction idéologique, loin de toute démarche d'historien. Et Blumenberg revendique vraiment une démarche d'historien. Donc Blumenberg ne conteste pas le droit de recourir à de tels concepts vides, à condition, bien sûr, de comprendre qu'ils ne relèvent pas du domaine de l'histoire. En revanche, la thèse qu'il veut discuter, et qu'il considère comme une thèse d'historien, qu'il faut du coup discuter comme telle, donc discuter en s'appuyant sur les outils de l'historien, c'est la thèse qui pose une relation univoque entre une origine et un but, un unde et un quo, c'est-à-dire, pour le citer, page 12 de la traduction française, un rapport de descendance, une transformation de substance. Donc, fin de citation, position selon laquelle, je cite encore page 17, les temps modernes deviennent la continuation du christianisme par d'autres moyens. Et ce qui est au cœur de cette thèse, dit Blumenberg, c'est l'idée que le monde est une constante. Le point important ici, me semble-t-il, est la notion de substance. Blumenberg s'oppose à une conception substantialiste de l'histoire, qui fait du processus historique le simple dévoilement d'un élément originel. Et contre une telle conception de l'histoire, il soutient au contraire, au moins au niveau de l'histoire intellectuelle, qu'il faut faire une histoire qui, je cite encore page 30, n'est pas soumise au schéma dégénératif selon lequel le sens plein ne serait donné que dans l'original du premier instant. Fin de citation. Donc à l'histoire substantialiste, il oppose une conception dynamique et plurielle de l'histoire intellectuelle qui multiplie les points de vue et les opérateurs historiques, la gnose, l'infini, le nominalisme, la curiosité, etc. Ce qui rend, en même temps, c'est vrai, cette œuvre foisonnante et son appréhension parfois difficile. Alors, il n'en reste pas moins, et c'est ce qui fait, à mon avis, la force et la qualité de ce livre, même si sa documentation est, par certains aspects, périmée, qu'un grand nombre de ses thèses, heuristiques et herméneutiques, restent justes, juste, c'est-à-dire susceptible d'être utilement discuté par les historiens de la philosophie médiévale aujourd'hui. Alors, pour Blumenberg, on se condamne à ne rien comprendre à l'authenticité des temps modernes si on les pense dans un rapport univoque avec le Moyen-Âge. De même que, symétriquement, on ne comprendra pas le Moyen-Âge, son authenticité et sa légitimité, si on le pense dans une même sorte de relation, soit avec l'Antiquité, comme on peut avoir tendance à le faire, soit avec la modernité. Donc Blumenberg invite à identifier les opérateurs historiques qui permettent, sans rien retirer à la spécificité de chaque période, de penser leur articulation. Donc, dans le cadre d'une double journée consacrée successivement à Gilson et Blumenberg, il est intéressant de constater que l'un de ces opérateurs historiques, comme Aurélien l'a rappelé, est le nominalisme. Alors, Blumenberg ne semble pas avoir ni sympathie particulière, ni antipathie spécifique pour ce courant de pensée. Il se situe en fait à égale distance de deux positions antagonistes qu'il faut rappeler. La première, qui est inspirée d'une certaine lecture néo-scolastique, fait du nominalisme le principe destructeur de l'édifice scolastique par la mise à bas d'un monde de causes essentiellement ordonné. C'est, on le sait, la thèse de Gilson qui a fréquemment relié nominalisme et relativisme. Tout n'est pas faux, sans doute, dans une telle thèse, et Blumenberg la reprend en partie quand il fait du nominalisme un facteur de dépassement des médiations, c'est les analyses autour de la page 212. Donc Blumenberg s'intéresse aux médiations causales, mais on pourrait généraliser à toute forme de médiation, peut-être. La thèse inverse est développée symétriquement à la néoscolastique en milieu protestant. On la retrouve, par exemple, récemment, chez un important historien de la pensée médiévale comme Heiko Obermann. Et cette pensée protestante fait du nominalisme l'un des facteurs qui rendent possible la réforme. Donc là encore, il y a sûrement du vrai dans cette thèse, à condition de comprendre comme le fait remarquer Blumenberg, qu'en histoire intellectuelle, la téléologie n'a pas de valeur en soi, mais seulement pour nous, c'est-à-dire à titre heuristique et régulateur.
Alors, avec ce que vient de rappeler Christophe, vous voyez d'où l'idée est née, en fait, d'une demi-journée sur Blumenberg après une demi-journée sur Gilson, qui a lieu donc hier, ici même. Car si l'un et l'autre, Gilson et Blumenberg, voient dans le XIVe siècle un moment de crise et même de bascule dans l'histoire de la philosophie et de la pensée en général, ils ne l'interprètent pas du tout de la même manière. Si on caricaturait un peu leur position à l'un et à l'autre, on pourrait dire que le premier, Gilson, il voit le début d'une forme de décadence de la philosophie, une chute, disons, du point où elle culminait jadis sous le verbe et la plume de Thomas d'Aquin, tandis que le second, Blumenberg, il voit au contraire, et d'une certaine manière plus positivement, même s'il considère que c'est une crise, ce qui a précipité le monde dans la modernité, tout en refusant toute forme d'histoire téléologique, comme l'a rappelé Christophe. Au fond, donc, leur constat était assez proche sur ce moment, en tout cas, de l'histoire de la philosophie, sur certains points du moins, mais ils en tiraient des conclusions diamétralement opposées. Alors, je reviens sur le manque d'intérêt des médiévistes français pour le grand récit de la modernité proposé par Blumenberg. Il me semble d'autant plus surprenant, vu ce que nous venons de dire, puisque la France avait connu, avant la publication de la légitimité de l'art moderne, des débats qui croisent ceux évoqués par Blumenberg, notamment à propos de la révolution scientifique moderne, par exemple, après que Alexandre Coiré avait remis en cause certaines thèses de Pierre Duhem, plutôt français. Or, le grand livre d'Alexandre de Coiré, Du monde clos à l'univers infini, paraît en anglais en 1957, puis en français en 1962, soit 4 ans avant la publication de La légitimité des temps modernes. J'ajoute un élément qui aurait permis peut-être une comparaison, une mise en débat Coiré-Blumenberg. Coiré fut l'élève de Husserl en Allemagne avant d'arriver en France, et il reprend une bonne partie de la thèse de Husserl dans la crise des sciences européennes, quand il reprend lui-même son grand récit de la modernité. Or, ce texte de Husserl, ainsi que d'autres textes de Husserl, et même de Heidegger, sont à l'arrière-plan, de manière critique, pour le coup, chez Blumenberg. Blumenberg essaye de s'opposer à la tradition phénoménologique qui a été initiée donc, par Husserl avec ce texte, La crise des sciences européennes. Alors, c'est vrai que Coiré et Blumenberg ne soutiennent pas exactement la même thèse, loin s'en faut. Le premier insiste sur des éléments précis, disons, de changement scientifique, comme la géométrisation de l'espace ou l'univers infini. Le second, sur des changements plus profonds. Les échelles sont à peu près les mêmes, mais Blumenberg s'intéresse à des changements plus profonds, des changements d'attitude philosophique, le retour de la curiosité scientifique après la condamnation médiévale de la vana curiositas, qui est une grosse partie du livre, l'abandon progressif d'une vision eschatologique en philosophie de l'histoire, de nombreux thèmes qui sont absent ou très peu présent chez Coiré. Alors, non que Coiré n'ait pas voulu, comme Blumenberg, situer la révolution scientifique moderne dans des changements plus profonds, mais ce n'est pas exactement sur le même plan, me semble-t-il, que Blumenberg. Alors, dans le CV, permettez-moi de citer ça, le lieu y invite, que Coiré rédigea pour sa candidature malheureuse à la succession d'Étienne Gilson au Collège de France, Coiré écrit que l'évolution de la pensée scientifique n'est pas indépendante des idées qu'il appelle transscientifiques, philosophiques, métaphysiques, religieuses. Et Blumenberg, lui, je pense, est plus proche de Cassirer, si on voulait situer des filiations, et ne veut pas courir le risque de limiter l'histoire de la modernité à celle de la métaphysique, ni même à l'histoire de la religion, comme avait tendance à le faire Husserl pour la métaphysique. Bref, comme pour Gilson, j'ai comparé Gilson-Blumenberg, il me semble que les entreprises de Coiré et de Blumenberg étaient comparables sur certains points. Elles pouvaient entrer en dialogue, mais évidemment ce choc des titans, si je puis dire, n'a jamais eu lieu. Et c'est bien dommage. Alors permettez-moi de terminer cette brève présentation par quelques mots sur un chapitre du livre de Blumenberg qui me semble assez central. C'est le chapitre 3 de la seconde partie du livre, intitulé « Comparaison systémique des crises de l'Antiquité et du Moyen-Âge », qui constitue, selon moi, un des cœurs de l'ouvrage, sinon le cœur de l'ouvrage. Et c'est aussi, à mon avis, le chapitre qui est le plus discutable, dans tous les sens du terme, par nous, médiévistes. Blumenberg y aborde le paradoxe suivant. L'absolutisme théologique, comme il appelle, des nominalistes du XIVe siècle, c'est-à-dire en gros l'extension inédite accordée par eux à la toute-puissance divine, que Dieu crée librement un monde contingent et les motifs de la volonté divine sont inaccessibles à l'homme. Il y a tout un tas de thèses qui vont avec ça, je ne les développe pas. Donc cette extension de la puissance divine aurait engendré, de manière quasi nécessaire et donc légitime pour Blumenberg, ce qu'il appelle l'affirmation de soi de l'homme moderne, de la raison moderne. C'est-à-dire que l'incertitude introduite par la contingence du monde créé, l'impossibilité de percer les mystères de la libre volonté de ce Deus absconditus, aurait contraint l'homme, d'une certaine manière, à se comporter, là je cite Blumenberg, comme si Dieu était mort. Autrement dit, trop de théologie tuerait la théologie. C'est paradoxalement l'excès dans cette théologie qui a amené l'homme à développer quelque chose qui devenait d'une certaine manière antithéologique. Mais cet éloignement de Dieu, mis en place par des théologiens eux-mêmes, et c'est pour cela qu'on ne peut pas parler de sécularisation, n'est pas celui de l'épicurisme antique. Et donc ce chapitre compare la crise qu'a constituée l'épicurisme et celle qu'a constituée le nominalisme au Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'épicurisme, avec ses dieux indifférents, loin du monde, avec sa physique atomiste et matérialiste, n'a pas su et n'a pas pu entraîner le monde dans la modernité au sortir de l'Antiquité, car il s'agissait d'une philosophie pratique, il y insiste beaucoup, qui vise l'ataraxie et non la connaissance et la maîtrise de la nature pour elle-même. Et comme le dit Blumenberg, la physique épicurienne ne cherche pas tant à expliquer les phénomènes naturels qu'à les neutraliser, en particulier d'un point de vue pratique. Je cite Blumenberg, « Après la philosophie des Grecs, le postulat de l'ataraxie restait possible. Après l'absolutisme théologique de la fin du Moyen-Âge, l'affirmation de soi devint la conséquence nécessaire de tout système philosophique. » C'est-à-dire que la philosophie, la science moderne, seraient donc des réponses à cette crise de la fin du Moyen-Âge, à une angoisse, comme le dit parfois Blumenberg, engendrée par et dans la théologie. Et c'est pourquoi, selon Blumenberg, les débats médiévaux sur le nominalisme, sur le scepticisme, sur l'atomisme, ont joué un rôle aussi important, sinon plus important, dans l'avènement de la modernité que la redécouverte de Lucrèce et d'Épicure à partir du XVe siècle, contrairement aux grands récits à la mode aujourd'hui et qui viennent concurrencer celui de Blumenberg. La modernité, donc, ne serait ni un retour de l'antique, ni une version sécularisée du Moyen-Âge, bien que les modernes reprennent l'épicurisme à cause des théologiens médiévaux. Et au vu des travaux récents des médiévistes ici présents, notamment, en histoire de la philosophie médiévale, ce sont là, à mon avis, des éléments qui méritent encore d'être discutés.
Donc, pour conclure, ce à quoi nous invite Blumenberg, finalement, et c'est un point qu'il faudra mettre à la discussion peut-être, c'est qu'il faut inverser notre point de vue d'historien et restituer les structures de dialogue qui sont à l'œuvre dans ce que Blumenberg appelle l'élaboration historique des catégories. Il le dit dans deux pages, à mon avis, fondamentales, les pages 435-436 de la traduction française, où il explique bien que ce sont ces structures de dialogue qui permettent de dépasser le faux problème que constitue l'opposition entre rupture et continuité. Et donc, à ce titre, la modernité doit être repensée comme, je cite encore Blumenberg, « l'ensemble des efforts pour répondre dans un contexte nouveau » aux questions posées par l'homme du Moyen-Âge. Et cette question, cette remarque sur les questions et les réponses nous conduit peut-être à identifier une origine improbable et inconnue, en tout cas des sécuaires d'Alain Libera, une origine gaulliste, que Blumenberg mentionne page 435 en référence à ce dessin de Jean Eiffel dans l'Express. Donc on voit que finalement ce qui est important c'est de fournir des questions à des réponses. Et donc je cède à présent la place à nos intervenants pour qu'ils puissent fournir leurs questions à nos réponses. Merci.